C'est effectif depuis cette semaine. Les podcasts, c'est-à-dire les flux d'enregistrement audio des émissions de RFI, sont désormais en une seule partie. Idem sur le site RFI.fr, une seule page par émission. Cela fait des années que nous attendons cette petite avancée technique et je sais, pour avoir reçu plusieurs mails sur le sujet, que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir demandé que le confort d'écoute de nos programmes sur Internet soit optimisé. Si vous possédez un téléphone intelligent et que vous n'êtes pas familier du fonctionnement d'un podcast, faites une petite recherche sur Internet afin de dénicher la meilleure application de gestion de podcast. Promenez-vous ensuite dans les fonctionnalités de cet outil et vous verrez que c'est en général très simple de s'abonner à vos programmes favoris. C'est gratuit, pratique et ça permet de s'occuper les oreilles quand on se déplace, qu'on voyage ou qu'on se livre à une activité qui ne requiert pas une grande concentration. Si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter par mail atelier@rfi.fr.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Le photographe Guillaume Herbeau travaille sur l'Ukraine depuis plus de 10 ans. Il y a photographié la Révolution Orange de 2004-2005, les retombées de Tchernobyl, ces photos des Femen, ces militantes féministes qui posent et manifestent seins nus, ont fait le tour du monde depuis presque un an. Son pays de prédilection a basculé dans la crise et la guerre. Il raconte cette histoire en images dans l'album Ukraine de Maïdan au Donbass. Nous en parlons avec lui dans quelques instants, juste après la chronique américaine de Marie-Catherine Beuth. Dans presque une heure, Francis Pisani revient pour nous sur le concept et la pratique de l'agriculture urbaine.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Et on commence comme chaque semaine avec la chronique Étreinte Digitale. Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu as assisté Marie-Catherine la semaine dernière à la conférence ONA à Chicago. ONA, c'est Online News Association. Une conférence où on parle en général des tendances à venir dans l'univers du journalisme. Et toi, il y a trois choses qui t'ont intéressé. Et tout d'abord, le design.
Oui, ONA est une conférence où on parle de tendances et où beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs ou de journalistes viennent raconter un petit peu quelles sont les directions de leurs expérimentations actuelles. Et il y a trois idées que j'ai trouvées très intéressantes et très utiles pour envisager l'avenir des médias. La première est de voir que le design pousse la porte des salles de rédaction et des écoles de journalisme. Alors attention, le design ici n'est pas au sens design graphique, mais design au sens de conception d'expérience. Et il y avait un panel très intéressant réunissant quelqu'un de Stanford qui essayait de regarder comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils, ces méthodologies de réflexion pour préparer les étudiants à commettre ce qu'ils appellent des actes de journalisme. L'enjeu est de taille, il s'agit d'identifier ce qui est important pour le journaliste et en gros comment nous, journalistes et médias, allons survivre demain.
Je me souviens d'ailleurs que toi, dans ton expérience à Stanford, tu nous avais parlé de tes cours de design thinking, c'est-à-dire de manière de penser le design pour les projets médias, c'est ça ?
C'est absolument ça. Et au cœur de cette approche, c'est l'idée de mettre l'utilisateur au centre de l'expérience et de se poser d'abord la question de quoi il a besoin. Cette idée-là, on la retrouve derrière la deuxième tendance qui m'a marquée lors de cette conférence, qui est comment est-ce qu'on peut avoir une approche start-up, une approche entrepreneuriale sur des projets médiatiques. Pour en parler, il y avait Mélissa Bell de Vox, c'est un nouveau site d'explication de contenu et d'actualité lancé par des anciens du Washington Post il y a quelques mois aux États-Unis. Et face à elle, Lara Setrakian, qui est la fondatrice du site Syria Deeply, dédié uniquement à l'actualité syrienne. L'une et l'autre expliquaient que leurs expériences étaient une façon de tester à toute petite échelle à quoi pourrait ressembler une salle de rédaction si elle fonctionnait comme une start-up. L'idée est que tout le monde fait un petit peu de tout sur la partie plutôt gestion de projet, mais que au fond, chacun se concentre sur son expertise, soit une expertise de contenu, soit une expertise de méthodologie et d'approche. Leur espoir est de développer ce type d'approche ensuite au sein des organisations. Toutes les deux, pour l'instant, ont dû quitter les médias dont elles étaient originaires pour pouvoir poursuivre leurs projets plus entrepreneuriaux.
La dernière tendance qui t'a marqué, c'est qu'il y a plus d'intelligence dans la distribution de l'information. En tout cas, c'est ce qu'on peut attendre.
Oui, et ça, c'était une tendance plutôt prospective suggérée par Amy Webb lors de la présentation de son très attendu rapport de tendance technologique pour les journalistes. Elle considère qu'il faut commencer à regarder comment est-ce qu'on peut utiliser nos smartphones ou des algorithmes pour distribuer de l'information plus intelligemment et en tenant compte du contexte du lecteur. L'exemple qu'elle donnait était assez intriguant, on va dire intellectuellement. Elle suggérait qu'à partir d'un téléphone, on peut détecter la vitesse à laquelle se déplace l'utilisateur et donc savoir que si je me déplace à 10 km/h, peut-être je suis en train de faire un footing et il convient de me proposer un reportage audio, alors qu'en revanche, si je suis à 250 km/h, je suis sans doute pas en train de marcher, probablement dans un train ou dans un moyen de transport rapide et donc peut-être disposé à consulter un article de magazine sur ma tablette et à inviter donc les médias à réfléchir comment est-ce qu'on peut créer puis distribuer des contenus pour différents contexte d'utilisation.
Je signale pour ceux que ça intéresse qu'Éric Scherrer, sur son blog Métamédia, a également consacré un article sur 10 tendances, lui, pour le journalisme en 2015, issu de ses observations à la conférence ONA. Bien entendu, Marie-Catherine, on peut retrouver ta chronique sur ton blog de l'Atelier des médias. On peut aussi te lire sur ton blog personnel, Étreinte Digitale, et on peut enfin visiter ton projet Newstapes où tu déclines l'actualité chaque semaine selon 3 tempos. À la semaine prochaine, Marie-Catherine.
À la semaine prochaine.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
You're in tune to the international sound.
Bonjour Guillaume Herbeau.
Bonjour.
Tu es photographe, tu es peut-être un des plus grands photojournalistes français. Tu as une longue carrière derrière toi. Tu es cofondateur notamment de l'agence L'Œil Public, un œil qui s'est fermé il y a déjà quelques années. Tu as continué ta carrière de photographe. Tu es déjà venu dans l'Atelier des médias pour La Zone, un web documentaire qui a gagné le Visa d'or du web documentaire il y a 2 ans. Et tu viens de vivre une année particulière.
Oui, très particulière. En fait, j'ai été pris par les événements en Ukraine. À partir de décembre 2013 jusqu'au courant mai, quoi.
Fin novembre, il y a eu le mouvement de Maïdan qui est né à la suite du refus par le président ukrainien de signer un accord avec l'Union européenne. Toi, tu connaissais déjà bien l'Ukraine et tu as décidé d'aller donc fin novembre, début décembre à Maïdan, donc sur cette place emblématique de l'opposition au président ukrainien de l'époque. Tu as décidé d'aller sur place.
En fait, moi je vais en Ukraine depuis 2001 et j'y vais chaque année et j'ai découvert justement l'Ukraine par Tchernobyl. Donc j'ai un attachement en fait très particulier à ce pays et depuis cette dizaine d'années, je suis aussi les événements politiques. Donc j'ai fait la révolution orange, enfin j'ai couvert la révolution orange en 2004. Et quand en novembre dernier, j'ai vu les premières manifestations sur la place Maïdan, je me suis dit, oh là là, il va se passer quelque chose d'important, il faut partir. J'étais bloqué parce que je travaillais pour un journal en reportage. Et dès que je suis rentré à Paris, j'ai pris un billet d'avion et je suis arrivé, je crois, la deuxième semaine ou la première semaine de décembre. En fait, c'était assez étonnant parce que moi, j'avais toutes les images de la révolution orange. Donc, c'était une révolution d'espoir, de volonté, d'un nouveau monde, mais avec vraiment un espoir très, très positif, quelque chose qui était ouvert, une lutte pour la liberté. Et là, en fait, j'ai senti tout de suite une gravité parce qu'on n'était plus dans cette liberté, mais j'avais l'impression que les citoyens recherchaient d'abord une dignité. Et donc c'était une lutte, c'était beaucoup plus grave en fait. On sentait que les gens avaient longtemps souffert de la corruption de l'État et on sentait que maintenant ils réclamaient une dignité.
Et donc tu t'es retrouvé témoin d'un mouvement à l'origine pacifiste contre donc le président Yanukovych qui s'est petit à petit mué en une sorte de guerre civile.
Alors, en une sorte de guerre civile, c'est un peu fort. Je pense que ça s'est mué en guerre.
Oui, parce que guerre civile, ça implique
une population contre une autre directement.
Au sein d'un même pays, alors que là, il y a des acteurs extérieurs, il y a la Russie qui est très impliquée.
Voilà. Donc, ce que j'ai vu en arrivant sur place, malgré la gravité des choses, c'était des jeunes sur une place, des concerts de rock. Et puis, il y a eu une violence de l'État très, très forte. Et au fur et à mesure, en fait, les militants se sont créés en brigade d'autodéfense pour lutter contre cette violence d'État. Et au fur et à mesure, en fait, on a assisté à la création d'un camp, un réel camp, avec des barricades, des gens qui gardaient le camp, des gens qui se constituaient des boucliers en bois, qui prenaient des matraques, qui portaient des casques de skateboarders, etc., etc. Et c'était presque une ambiance moyenâgeuse qui arrivait sur cette place. au centre de Kiev.
Donc tu as décidé de couvrir, de suivre ce mouvement pendant plusieurs mois, d'aller et de venir à plusieurs reprises, une dizaine de fois en Ukraine pendant cette période, donc du mois de novembre 2013 au mois de mai 2014. Et tu as consacré un livre à ces mois de photographie, à ce que tu as vécu sur place. Ça s'appelle « Ukraine, de Maïdan au Donbass ».
En fait, ça est arrivé un peu par hasard. C'est un éditeur qui m'a contacté, l'éditeur CDP, et qui m'a proposé, à l'occasion de Visa pour l'image, de faire un livre. Et en fait, ce livre, c'est vraiment un voyage dans un pays qui tombe dans la guerre et qui part d'une crise politique et sociale à une guerre qui peut devenir une guerre extrêmement dangereuse pour la stabilité de l'Europe.
Et c'est le voyage aussi d'un photographe qui a consacré une grande partie de son travail au documentaire, au sujet long, au sujet posé, et qui se retrouve à devenir un peu photographe de guerre, photographe de combat de rue.
C'est étonnant parce que, en fait, moi, quand j'avais 20 ans, je m'imaginais photographe de guerre, et donc j'avais été en Bosnie, en Croatie, durant cette guerre au centre de l'Europe, et j'avais comme repère Robert Capa. Et puis très vite, j'en suis sorti. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était les lieux qui étaient des lieux où il y avait eu des fractures dans l'histoire, comme Tchernobyl, Hiroshima, Auschwitz, des lieux extrêmement marqués par la mort, par le temps,
par la catastrophe.
Et ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse encore, c'était de retourner sur ces lieux, 10 ans après, 15 ans après, 60 ans après, pour comprendre comment on pouvait continuer à vivre dans un lieu qui avait subi une fracture. Et donc j'étais dans une photographie extrêmement...
Qui prenait beaucoup de recul en fait.
J'étais dans le recul, il fallait que je photographie l'invisible, puisqu'on ne peut pas revenir 60 ans après sur un lieu, c'est quand même assez compliqué. Donc j'étais vraiment dans une démarche presque introspective. Et je crois que tout ce bagage de recherche sur la représentation de l'histoire, en fait je l'ai eu avec moi durant les 6 mois que j'ai pu passer en Ukraine.
Et il y a aussi... en toile de fond, la transformation d'un pays que tu as beaucoup connu, beaucoup visité, qui bascule, qui a déjà basculé d'une certaine manière en 2004, mais qui bascule à nouveau, et là avec encore plus de violence.
Oui, alors ce qui m'a marqué, en fait, c'était de me retrouver au milieu de ce que je peux considérer comme le rouleau compresseur de l'histoire. Ça veut dire que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où l'histoire, avec un grand H, se mettait en marche, l'individu était broyé. Et c'était une masse en fait qui commençait à monter. Ça veut dire que en fait je voyais des haines ancestrales qui remontaient. Alors que, par exemple, en Crimée, mon interprète qui était russophone pouvait avoir un discours un jour extrêmement modéré, ouvert vers les Ukrainiens, ouvert envers les Tatars, et le lendemain tomber dans un discours revanchard, haineux. Nationaliste, enfin voilà, donc c'était vraiment étonnant de voir comment on ne contrôle pas, en fait, c'est une réaction presque instinctive, quoi, qui dépasse l'individu.
On va parcourir ensemble cet album de photographie, cette sélection, il y en a beaucoup d'autres qu'on a même pu voir exposer, qu'on peut retrouver aussi sur ton site internet. Avant ça, peut-être un mot sur ta technique. Est-ce que tu as changé aussi des choses à ta manière de photographier, du fait de changer aussi de type de sujet?
En fait, moi, quand je partais en reportage, je préparais énormément ma narration photographique. Et là, en fait...
C'est-à-dire ?
Je me disais, je vais parler d'Hiroshima, par exemple. Comment je dois parler d'Hiroshima ? Est-ce qu'il faut que j'intègre des paysages ? Est-ce qu'il faut que j'aille rencontrer des victimes qui sont encore vivantes ? Est-ce qu'il faut que j'aille dans les musées, etc., etc. Et c'était presque à faire des croquis de ce que je voulais, comme un storyboard, en fait. Et là, en fait...
Ce qui est tout à fait normal, ce qui est commun, c'est-à-dire que... On n'a pas toujours l'impression, quand on découvre un travail journalistique, qu'il y a eu une préparation. Parfois, on a l'impression que tout a été fait un peu sur le vif, mais souvent, on optimise les séjours, on optimise les reportages en préparant énormément et en anticipant les choses qu'on va montrer.
Oui, exactement. Et dans ma manière de photographier, c'était des photographies extrêmement construites, mais dans le sens où quand je rencontrais quelqu'un, on réfléchissait ensemble à comment faire la photographie. Donc, c'était des portraits posés. Je pouvais même modifier des choses dans une pièce pour que le cadre tienne en enlevant un objet, par exemple, et voilà. Là, en fait, c'est totalement l'inverse. J'essaie de suivre au mieux les événements. Et après, j'ai toute une réflexion sur que dois-je garder, comment représenter la guerre, quels sont les cadres qui peuvent raconter la guerre, mais dans le temps. Parce qu'en fait, tout le questionnement que j'ai, c'est comment un travail qui est basé sur du news peut s'inscrire réellement dans le temps.
Et comment tu vis, toi, le fait justement de ne plus être dans cette situation où tu t'intéresses au recul, où tu as déjà pris du recul par rapport à ton sujet avant de le photographier? Comment tu vis ça? Quelles questions tu te poses?
Écoute, en fait, c'est assez marrant, c'est assez compliqué. Parce que je me dis, j'ai pas envie de rater quelque chose dans mon histoire. Au départ, je me disais ça. Je veux pas rater. Je veux aller là où les choses se passent et je veux avoir tous les événements clés. Et évidemment, en fait, c'est impossible d'avoir tout. Un conflit pareil, t'es obligé de rater. Et c'est même une succession de ratages. Parce que il va se passer quelque chose dans telle ville et toi, t'es dans une autre. Et en fait, il te faut 3 heures de route pour y aller. Et évidemment, t'arrives après. Donc, en gros, t'arrives presque toujours en retard. Quand tu reviens en France, évidemment, il va se passer l'événement énorme qui va chambouler la suite des événements. Et donc, j'étais dans un stress permanent. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je suis connecté tout le temps pour savoir quelles sont heure par heure, pour savoir où en est la situation et savoir que si je dois partir maintenant, voilà.
Et ça, c'est lié au fait que tu as travaillé pour des journaux d'information, Le Monde,
toute
la presse française,
voilà.
et où du coup, les photos que tu vas diffuser dans ces médias, ce sont des photos d'actualité, donc qui suivent ce qui s'est passé, les faits importants, etc.
Exactement. En fait, la problématique, c'est comment continuer un travail personnel tout en étant dans un événement d'actualité. Et en fait, je me suis rendu compte, alors ça paraît tout bête de le dire, mais je me suis rendu compte qu'un événement chasse l'autre. Donc ça veut dire qu'on a l'impression que cet événement va être crucial et que si on ne l'a pas, ma narration photographique globale dans l'histoire va être perdue. Et en fait, c'est pas le cas. Parce que, et ça je l'ai compris aussi, c'est d'abord ma présence en fait. C'est ce que moi je vais voir qui va donner du sens à mon travail et non les événements.
On va parcourir le livre, il y a toujours une image d'ouverture. Donc là c'est une scène de rue, c'est ça, qui se passe à Kiev, début décembre 2013. Tu viens d'arriver, donc il y a la place Maïdan qui est occupée par le mouvement Encore Pacifique. Et c'est une photo qui est à la fois très calme et en même temps qui montre un fort potentiel de violence. On voit donc une rue assez large avec des bâtiments anciens qui est totalement vide jusqu'au bout pratiquement de la rue où là on voit une sorte d'armée de policiers anti-émeute avec des boucliers qui bloquent la rue. Et du coup c'est une photo à la fois pas douce mais calme, sereine et très très violente.
Je suis arrivé le matin à Kiev. Et il y a eu des manifestations toute la journée sur la place Maïdan. J'ai pas vraiment fait de photos parce qu'en fait c'était très proche de ce que j'avais pu voir durant la Révolution Orange. Donc je fais 2-3 images. Et puis après, la nuit tombe, la neige aussi. Et il y a une ambiance très très bizarre autour de la place Maïdan et surtout dans les quartiers qui sont les quartiers de l'administration présidentielle. Donc il y a des manifestants partout. Il commence à y avoir des barricades et même des sortes de petits campements dans les rues. Et en m'approchant, en fait, évidemment, moi, je revenais sur les lieux de la Révolution 2004. Donc, j'avais toutes les photos de la Révolution 2004 que j'avais faites en tête. Et je revenais vers ces lieux pour me débarrasser de ces images. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est que lorsqu'on travaille sur un événement qu'on connaît bien, il faut se débarrasser des images qu'on a pu faire. Donc, il faut les faire, il faut les refaire. Et donc je revenais et je les refaisais. Et puis à un moment donné, je suis tombé dans cette rue. C'est une architecture stalinienne, très très forte. Il y a ces policiers qui sont en tenue. Et pour moi, c'était vraiment comme dans un film. Et j'avais besoin de montrer ce côté un peu surréaliste en fait de la scène. Je sais pas, c'est la guerre des étoiles, mais au pays de Staline, quoi.
Et puis c'est aussi une manière de montrer peut-être aussi le calme avant la tempête, avant la violence extrême. Alors là, on est encore en décembre, c'est plutôt au mois de janvier que la répression a été très 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 forte et extrêmement violente.
Alors elle a basculé en janvier, mais la répression elle a été déjà forte en novembre et en décembre. Sinon, il n'y aurait pas eu Maïdan. Et d'ailleurs, je ne sais plus, mi-décembre, il y a eu une attaque de la police qui était violente, mais dans les règles en fait, violente, mais avec des matraques, pas avec des armes à feu.
On marque une pause dans l'atelier, on se retrouve dans un instant.
RFI.
Vous écoutez l'Atelier des médias. Cette semaine, nous sommes avec le photographe et journaliste Guillaume Herbeau. Il vient de publier « Ukraine, de Maïdan au Donbass », un album où il partage son expérience et sa vision de la crise ukrainienne de décembre 2013 à mai 2014. Les photos sont présentées par ordre chronologique. Nous parcourons les clichés avec Guillaume. Nous sommes maintenant en janvier. Cela fait 2 mois que la place Maïdan est occupée par les manifestants. Le 17, le président Yanukovych a fait voter des lois liberticides pour lutter contre les manifestations. Le 22 janvier, les affrontements entre les forces de police et les manifestants provoquent la mort de plusieurs personnes. Une dizaine de photos montrent le chaos de la répression et les traces laissées sur la ville de Kiev. Ces événements inspirent un court texte à Guillaume Herbeau qui a jalonné son récit photographique de quelques impressions écrites.
Il règne désormais un silence angoissant sur la place Maïdan. Il faut descendre sur l'avenue Krychtik et prendre à droite, où tout se passe aujourd'hui. Ambiance tribale à l'entrée du stade Dynamo, des carcasses de bus brûlées, des hommes casqués, l'odeur âcre du gasoil, la neige noire. J'aperçois au loin une foule compacte qui crie, tape en rythme sur tout ce qui peut faire du bruit. Les policiers répondent en frappant sur leurs boucliers, à chaque camp son bruit de métal. Le lendemain, la charge est violente, terrifiante. La police tire. Balles en caoutchouc, chevrotines et balles réelles. Même nous, journalistes, sommes pris pour cible. Une obsession, protéger mes yeux et bouger vite pour ne pas être bloqué en cas de charge. C'est déjà arrivé. Nous étions réfugiés dans un renfoncement sur la place de l'Europe et les Berkouts, les forces spéciales du gouvernement, arrivaient vers nous. Quand la matraque s'est levée, on a crié « Presse !» Et ils ont reculé. À quelques mètres, un confrère était roué de coups. Bilan de la journée, 300 blessés et 5 morts, dont 4 par balle.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
RFI.
Et donc, là, tes photographies basculent aussi dans une forme de violence. Et cette ville de Kiev que tu as connu finalement plutôt paisible, se transforme en champ de bataille. Il y a cette photo juste derrière. Alors, il y a énormément de photos d'objets qui brûlent, de voitures qui brûlent, de barricades, etc. Et là, il y a une photo, donc 2 jours, où c'est un véritable champ de bataille. C'est-à-dire que on voit le mobilier urbain, on voit des armes, on voit une ville normale, mais il y a dessus une couche de pneus brûlés,
de glace. En fait, on est en première ligne. Face à nous, il y a la police. Et là, moi, je suis monté sur une carcasse de camion brûlé pour faire cette photo. Et c'est un moment, en fait, c'est le lieu qui était un lieu très paisible est devenu un lieu surréaliste. Toute la nuit, en fait, les manifestants ont fait une barricade de feu en jetant des pneus. C'était donc un mur de feu, mais de 10 mètres de haut, sans exagérer. Et toute la nuit, les policiers, de leur côté, ont envoyé de l'eau pour arrêter les flammes. Si bien que la rue s'est transformée en mer glacée. Et le matin, le feu s'est arrêté et il y a une ambiance comme ça, il y a une lumière qui arrive et la brume du matin et la fumée des cendres qui sont en train de se consumer sous la glace.
Donc tu continues à aller venir en Ukraine, c'est ça ? Donc janvier, les combats de janvier, les scènes de rue, les scènes de violence, les champs de bataille et tu retournes en février.
En février, et en fait, alors pour moi ça a été dramatique. Pour 2 choses. En février, je m'absente une semaine parce que je dois remplir un contrat voilà, que je fais chaque année. Et au même moment, eh bien, Maïdan s'embrase et là, il y a un combat terrible qui devient un massacre, en fait, puisque plus d'une centaine de personnes sont tuées par les forces de l'ordre, par des armes à feu, et il y a plus de 1000 blessés. Et en fait, moi, je vis ça très très mal parce que je ne suis pas là, je ne suis pas avec les manifestants, et j'ai l'impression que là où je suis, ce n'est pas ma place, et que ma place est à Maïdan à ce moment-là. Donc je le vis très très mal, et donc je reviens de ce contrat en France, et le lendemain matin, je pars tout de suite à Kiev, et j'arrive après les combats. Et quelques jours après, la place Maïdan est devenue le campement qu'on avait pu voir au départ, c'est devenu un débâcle total. La place a radicalement changé. Tous les pavés ont été enlevés. Un immeuble a brûlé derrière. Et les gens sont abasourdis parce qu'ils viennent de vivre. Ils sont dans un choc total, dans un traumatisme. Et puis voilà, il y a un homme à un moment donné que je vois.
Ça, c'est l'image qui montre le basculement. Donc c'est après la violence et c'est un homme blessé.
C'est un homme blessé à l'œil qui a été blessé durant les combats.
Un jeune homme,
il doit avoir une vingtaine d'années. Il est plutôt beau. Et il porte un béret et une veste de combat qui ressemble à une veste de combat américaine.
Côté un peu Hemingway.
C'est ça, exactement. Il fume une pipe. Et en fait, c'est vrai. Voilà. En fait, pour moi, je vois Hemingway
pendant la guerre d'Espagne.
Voilà, en Ukraine. Il s'est égaré en Ukraine. Et donc, je m'approche de lui. Je lui demande si je peux faire une photo et il me répond très gentiment et je fais cette photo. Et pour moi, c'était vraiment un écho à toutes les images de guerre qu'on avait pu connaître auparavant, en fait, dans l'histoire.
Et donc là, le conflit bascule dans une violence extrême à Kiev et il dégénère avec la destitution de Yanukovych et puis avec l'embrasement, d'abord la Crimée, ensuite le Donbass. Et tu continues, toi, à suivre les événements, à suivre ce qui se passe.
C'est assez étonnant parce que, en fait, en revenant en Ukraine, après les massacres, en fait, je me dis, maintenant, la prochaine étape, c'est la Crimée.
Tu connaissais déjà bien la Crimée. D'ailleurs, tu avais fait un sujet sur les pro-russes ou sur la volonté de rattachement à la Russie de la Crimée.
En 2008, j'avais fait ça. Et c'est vrai que quand j'avais revu le travail que j'avais fait en 2008, je m'étais dit, tiens, tout était là, en fait. Toutes les bases du conflit étaient déjà inscrites il y a quelques années. Donc je pars en Crimée et en fait, ce qui est très étrange, c'est que c'est vrai qu'on est pris par l'histoire et donc on part d'un moment, on est pris et en fait c'est compliqué de revenir chez soi parce que les événements en fait s'enclenchent et même dès mon arrivée en Crimée et dès que je vois que les choses en Crimée sont déjà gagnées pour les Russes, je me dis maintenant c'est le Donbass et quelques semaines plus tard le Donbass se déclenche.
Donc tu fais un passage, en tout cas dans le livre, très rapide en Crimée. Tu consacres une seule photo.
Oui, alors
tu écris un petit texte.
Oui.
Crimée, 1er mars 2008. Au pied de la statue Lénine. Un festival folklorique. Les Tatars ont entamé une danse au son des tambourins. En réponse, les Russes ont chanté en chœur. C'était à celui qui gueulerait le plus fort. La haine passait par la musique. Aujourd'hui, même lieu. Des hommes portant des boucliers aux couleurs de la Crimée. Ils crient « Poutine et gloire au Berkoutz !» J'ai un nœud à l'estomac.
Là, on est en mars 2014, ton livre va jusqu'en mai, tu passes par la Crimée. La Crimée, ça se passe assez rapidement.
Hein, oui. L'affaire a été faite rapidement pour les Russes, donc voilà.
Et là, tu vas au Donbass.
Je vais au Donbass, mais
c'est la dernière partie du livre.
Oui, en faisant un détour au centre de l'Ukraine pour aller voir des Cosaques qui font des cérémonies et qui, on sent bien, à ce moment-là, en fait, il y a une grande réunion de Cosaques. On voit vraiment les armes de guerre arriver et les Cosaques se préparent à la guerre contre les Russes. Et le soir même de la première journée de reportage avec eux, on apprend que là, au Donbass, les choses basculent et que ça s'embrase. Et donc c'était assez fou de voir tous ces Cosaques qui se disaient « Que fait-on ? Est-ce qu'on part maintenant pour défendre nos valeurs ?» Et voilà, donc c'était un passage. Et je voyais aussi les Cosaques faire bénir leurs armes pour se préparer à la guerre. Et donc là, en fait, on arrive au Donbass.
Donc là, on passe au mois d'avril.
Et des villes tombent aux mains des pro-russes. Elles sont prises par des hommes, une centaine d'hommes armés, et qui, enfin voilà, c'est des professionnels de la guerre, enfin on le sent. Une des villes qui était symbolique et qui l'est encore, c'est la ville de Slaviansk, qui est devenue une ville pro-russe et qui affirme son indépendance.
Et donc on voit la deuxième photo que tu consacres à Slaviansk, c'est un milicien, on va l'appeler comme ça, pro-russe. En treillis militaire, cagoulé, comme d'ailleurs la plupart des hommes armés qu'on va voir dans la suite de ton livre, en tout cas pour les pro-russes, on voit pratiquement plus aucun visage. Et juste à côté de lui, il y a une jeune fille en petite robe, qui a 18 ans, 17 ans peut-être, en petite robe bleue, qui a l'air très juvénile, et qui porte l'arme automatique de ce milicien, qui pose avec fièrement. Et il y a une grande innocence dans la jeune fille et une grande violence dans l'accoutrement du milicien qui est assis à côté d'elle.
Oui, c'était un moment un peu étrange. Les miliciens pro-russes venaient de prendre à l'armée ukrainienne des blindés et ils paradaient dans le centre-ville. Et la population, en fait, les accueillait comme des libérateurs parce que ils pensaient que les gens qui dirigeaient le pays, qui avaient fait la révolution à Maïdan, étaient des fascistes et des nazis. Donc il y avait une peur primaire de leur côté, donc ils les accueillaient. Et donc j'ai vu cette jeune fille en fait faire la queue pour faire cette photo. Donc j'ai attendu qu'elle passe et qu'elle prenne l'arme et qu'elle pose avec un grand sourire. C'est très étrange parce qu'en fait c'est un moment d'une naïveté totale de la part de la jeune fille. Même le milicien, en fait, il est en train de rire.
C'est comme si la guerre était un jeu, en fait. Il y a quelque chose de ludique, on s'amuse, on pose, oui, etc. On tient l'arme. Alors qu'en fait, c'est une arme qui sert à tuer et la guerre, c'est pas du tout un jeu.
Oui, et l'ambiance, en fait, était électrique. Ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait un contraste entre l'ambiance électrique et la naïveté des gens qui accueillaient ces inconnus armés, quoi.
Avril, mai, c'est la fin de ton voyage.
Je finis dans le Donbass. Les premiers morts arrivent. Il y a des combats qui commencent à arriver. On sent que la situation dégénère. On voit des milices armées aussi arriver. Et la guerre commence.
Là, on est le 7 mai.
À Slaviansk. Et je viens de passer une journée assez éprouvante pour moi.
Il pleut. De l'électricité dans l'air. Des barrages de pneus. Des hommes cagoulés et armés. Le chauffeur est fébrile. La route est coupée. Il tourne à gauche, croyant qu'il y a un passage. Niette. C'est une sorte de cour fermée. Des hommes creusent des tranchées. Ils nous regardent les yeux brillants d'alcool. L'un s'avance, visage couvert de peinture guerrière. Un bandeau sur la tête, armé d'un fusil de sniper. Papier, accréditation, attente, appareil photo interdit. Il vaudrait mieux partir, non ? On repasse une série de barrages. Lumière brute, ciel gris. Un homme ivre, torse nu, braque sa kalachnikov sur moi. Bang, bang ! Il sourit et titube. Des adolescents à côté d'une statuette de Lénine posée sur un pneu contrôlent les véhicules. Regard sombre, envie de pouvoir. Au final, juste un peu de stress, mais le sentiment que la guerre arrive ici à Slaviansk, dans cette ville occupée par les pro-russes.
Donc ça, c'est ta mauvaise journée résumée avec
des scènes de mauvaises journées.
D'intimidation, ouais. Des scènes de violence.
De chaos pour moi, de chaos, et de voir vraiment que la haine est présente, que le chaos a pris le dessus et que la guerre va détruire tout, quoi.
On va pas tarder à conclure. Tu as ouvert ton livre donc sur cette image de policier au fond d'une rue cossue de Kiev, administrative. Ce barrage qui laisse imaginer que la violence arrive, mais qu'elle n'est pas encore là, avec une rue déserte devant. Tu termines sur la photo d'une tombe.
Oui, en fait, il y a une série de morts tués dans les violences entre milices. Et donc, je fais une série d'enterrements. C'est assez pénible, d'ailleurs, parce qu'on est plusieurs photographes et je trouve que c'est d'une violence totale pour les familles qui vivent cette horreur.
Et tu n'es pas habitué, j'imagine, à couvrir...
Avec autant de photographes pour un événement où il y a autant de douleurs. Et donc, je fais une série de photos et au final, je garde la photo d'un trou qui va accueillir le cercueil d'un homme qui a été tué quelques jours auparavant à Mariupol, un policier, mais qui est un informaticien, donc pas un guerrier, et qui meurt dans des horribles souffrances. Son corps n'est pas respecté, même dans la rue, parce qu'il représentait quelqu'un qui était pro-ukrainien. Et je décide de symboliser la mort qui va prendre le dessus par ce cimetière et ce trou vide.
Quels enseignements tu tires aussi de ce changement dans le type de travail que tu fais ?
Il y a des enseignements personnels et des enseignements professionnels. Mais professionnels, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, un événement chasse l'autre. Et en même temps, là, j'ai l'impression en fait que je fais vraiment mon travail de photoreporter, c'est-à-dire de témoigner du monde qui est là. On est dans une situation d'urgence. C'est dramatique. Je pense qu'on n'a pas du tout l'impression que... Non, on ne se rend pas compte du danger que l'Europe est en train de vivre aujourd'hui. Et là, en fait, moi, mon travail, c'est d'être présent pour alerter et pour essayer de que les gens prennent conscience du danger qui est à nos frontières. Voilà, donc c'est pas un enseignement, c'est vraiment l'impression que mon travail, c'est d'aller là-bas, quoi. C'est ma place, c'est d'être là-bas aujourd'hui dans mon travail. Après, d'une manière personnelle, en fait, c'est que je me rends compte aussi que notre environnement, là aujourd'hui, on est en paix, tout va bien, on se rend compte de rien, mais qu'en fait, comme l'Ukraine, en fait, la société civile peut basculer très vite, que la guerre peut arriver très vite, et donc en fait, je trouve que on doit être conscient de la chance qu'on a aujourd'hui d'être en paix malgré tous les problèmes sociaux, économiques et tout, et il faut vraiment qu'on soit conscient de ça pour que justement on préserve la paix. La paix, elle n'est jamais gagnée. Et il faut se battre pour préserver cette paix.
Et dans ta relation au travail, ta relation peut-être aux confrères sur place, le fait que toi tu aies couvert un conflit dans un pays que tu connaissais extrêmement bien, où tu avais beaucoup d'amis, où tu avais beaucoup de contacts, est-ce que ça aussi ça a été un enseignement, ça a été quelque chose de particulier ?
C'est assez étrange. Au départ c'est drôle parce que c'est vrai que j'étais un des rares photographes à venir là-bas. Depuis des années, j'étais même un des rares photographes à m'intéresser à ce pays, donc j'étais seul pratiquement là-bas, hormis quelques collègues.
Une grande partie de ton travail
est là-bas,
et dans cette zone, et les photos les plus célèbres des Femen, ce mouvement féministe né en Ukraine aussi.
Oui, donc voilà. Et après, en fait, de voir arriver des confrères qui débarquent un peu, au début, je suis un peu réticent, mais et puis après, je vois les gens qui sont sérieux et qui restent et qui s'intéressent vraiment et qui s'engagent. Et donc ça me fait plaisir. Et en fait, au final, on crée une sorte de bande, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité entre nous, on s'entraide, on échange. Je parle aussi avec mes confrères journalistes écrits, et on est liés par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on a vécu ensemble sur le terrain. Voilà, c'est comme une communauté plutôt qu'une bande, en fait. C'est une communauté. Et j'ai la chance en plus, enfin on a la chance, je crois. Enfin, j'ai la chance de connaître là-bas que des gens formidables, des journalistes formidables qui font leur travail le mieux possible, quoi.
Et dans ton travail, tu penses que ça va changer aussi ta manière de travailler à l'avenir ?
Je peux pas le dire encore, parce que par ailleurs, j'ai un projet en Albanie. Sur les familles cloîtrées à cause de la vendetta. Donc là, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est lié à du mouvement. On est dans des situations très arrêtées. Donc voilà. Donc je ne sais pas. On verra la suite des événements. J'en ai aucune idée.
Merci Guillaume Herbeau.
Merci.
Et bravo pour ce livre. Donc ça s'appelle Ukraine de Maïdan à Donbass. C'est publié à CDP Éditions. Voilà. Et on peut, pour ceux qui nous écoutent à l'autre bout du monde, qui n'ont pas les moyens d'accéder à ce livre, on peut retrouver une grande partie de tes clichés, peut-être même plus de clichés sur ton travail en Ukraine, sur la guerre qui a lieu en ce moment, et même sur tes autres travaux en Ukraine, sur ton site internet, qui s'appelle tout simplement guillaume-herbaut.com, c'est ça ?
Exactement.
Et on pourra bien entendu trouver des liens et des informations complémentaires sur le site de l'Atelier des médias. À bientôt.
Я солдат,
я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки.
Я сам не видел,
но мне так сказали.
Я солдат,
и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата.
Я солдат,
недоношенный ребенок войны.
Я солдат,
мама залечимая рана.
Я солдат,
солдат забытой богом страны.
Я герой,
скажите мне, какого романа? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Jehan Mahalouf.
Comment ça va ?
Très très bien, et toi-même ?
Ça va très bien, il paraît que tu es à Malaga et non pas à Barcelone, donc toujours en Espagne quand même, et tu veux aujourd'hui nous parler d'agriculture urbaine. De quoi il s'agit ?
Écoute, j'aurais t'en parler pour la bonne raison qu'il s'agit d'une des conséquences les plus curieuses de l'urbanisation accélérée dont nous parlons souvent. Il s'agit en fait de la renaissance d'une vieille pratique et on la trouve partout. On s'y donne au nord pour renforcer les communautés et contribuer au développement durable des villes. Au sud, elle est plus une question de survie. Mais une petite définition est sans doute nécessaire, et selon ce que j'ai pu réunir au sens le plus large du terme, l'agriculture urbaine comprend la culture de certains végétaux de base, elle s'étend à l'aquaculture, à l'apiculture et bien sûr à l'élevage des volailles, entre autres, puisque j'ai visité un centre d'élevage de cochons en Suède. Au nord, les chiffres sont modestes, ainsi une étude de l'université de l'Arizona montre qu'aux États-Unis, elle atteint exceptionnellement 5% de la nourriture consommée dans la ville et qu'elle ne dépasse pas 1% dans la plupart des cas. Mais l'engouement va croissant dans la mesure où ce type de pratique permet de réduire l'impact CO2 de l'acheminement des aliments. Il peut se mesurer maintenant, ou en tout cas quand il y a de l'agriculture urbaine, en mètres et non plus en kilomètres ou en milliers de kilomètres.
Et comment ça se passe au sud ?
Au sud, j'ai quelques exemples. En Colombie, elle fait figure de survivance de pratiques traditionnelles très anciennes. Ainsi, Bogota ne compte pas moins de 10 000 agriculteurs urbains. En Inde, un mouvement lancé à Mumbai sur le toit d'une des cantines du port gagne du terrain. Il en va de même chez les travailleurs des entreprises high-tech de Bangalore. Et à Delhi, où la sécurité alimentaire urbaine est une source croissante d'inquiétude, des milliers de familles font pousser de quoi se nourrir. Le phénomène existe en Afrique. Ainsi, la FAO, la Food and Agriculture Organization, a même des programmes pour l'organiser. Et la grande surprise pour moi, ça a été de découvrir qu'à Cuba, elles permettent à une bonne partie de la population de faire face à des rationnements qui n'en finissent pas. Plus de 50% des produits frais consommés à La Havane sont cultivés dans la ville.
Et est-ce que, à tes yeux, l'agriculture urbaine peut permettre de contribuer à résoudre les problèmes posés par l'urbanisation croissante ?
Écoute, il y a un signe très intéressant, c'est que les initiatives à objectif commercial ne manquent pas. Ainsi, lancé par Mohamed Hag sur le toit d'un entrepôt de Montréal d'une superficie de 3000 m², Lufa Farms se distingue par un effort systématique de commercialisation, problème sur lequel ce genre de projet achoppe facilement. Ailleurs, à Kashiwa, au Japon, dans une ancienne usine de Sony, Shigeharu Shimamura fait au contraire le pari de l'éclairage artificiel avec des LED et il recrée artificiellement le cycle diurne raccourci. Ça lui permet de produire 10 000 laitues par jour avec une productivité 100 fois supérieure à celle d'une ferme traditionnelle. À Singapour, j'ai pu visiter des startups se lançant sur ce terrain prometteur. Ainsi, SmartGo.co améliore l'aquaponie, c'est-à-dire la culture des végétaux en symbiose avec les poissons, grâce à une batterie sophistiquée de capteurs.
Et est-ce que ce type de pratique, pour toi, peut véritablement faire une différence ?
Le doute est totalement légitime, mais j'ai cru constater que les municipalités commençaient à encourager la tendance et ça pourrait peut-être faire basculer. Ainsi, San Francisco s'est décidé à suivre l'exemple de La Havane, ce qui est paradoxal si l'on veut, qui avait mis gratuitement des terrains à disposition de ceux qui voulaient les cultiver, mais ils font ça à l'américaine et la ville californienne offre depuis le 8 septembre des avantages fiscaux aux propriétaires qui transforment des terrains inutilisés en potagers, à condition que le bénéficiaire s'engage à produire de la nourriture pendant au moins 5 ans. Reste à savoir si les conditions à remplir poussent les candidats à se lancer vraiment dans l'agriculture ou les en découragent. C'est le cas dans la ville de Mexico, où une disposition comparable à celle de San Francisco a été prise. Mais les déductions sont insuffisantes et il est presque impossible d'en bénéficier tant les conditions d'application sont draconiennes. Il y a donc encore beaucoup à faire, mais je suis convaincu qu'il s'agit d'une tendance qui ne peut que croître, qu'il s'agisse d'améliorer l'ordinaire ou de survivre.
Merci Francis Pisani. Je rappelle qu'on peut également lire tes chroniques sur ton site personnel francispisani.net, sur les sites de l'Opinion et de La Tribune. On peut enfin retrouver toutes tes chroniques en audio et en test sur ton blog de l'Atelier des médias. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Ziad.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 355 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadawi, Jules Nardouek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse, Johnny Bissakonou et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter, nous commenter également sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini? Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Bah, ça continue sur Internet.